السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، nous poursuivons la lecture de cette lettre, ce message adressé à l'ensemble des gens aspirant au bonheur, et dont l'auteur n'est autre que l'éminent savant de l'islam, Abd al-Rahman ibn Nasir al-Si'di. Puisse Allah lui faire miséricorde et le faire entrer dans son vaste paradis. L'auteur, rahimahullah, nous dit, d'après le sens rapproché, chapitre suivant, à savoir que parmi les choses les plus utiles et les causes les plus utiles aidant à la disparition des inquiétudes, des soucis, des peines lors des difficultés atteignant la personne, le fait que la personne s'investisse et fasse en sorte de diminuer toutes les douleurs l'atteignant, et ceci se manifeste de la façon suivante. Avant même d'entrer dans ce qu'il va dire, il s'agit ici de la préparation du serviteur à affronter ou alors à faire face aux difficultés dans la vie. Car les gens ne sont pas pareils dans la façon de faire face aux difficultés dans leur vie. Ceci dépend de beaucoup d'éléments, parmi lesquels le degré de foi qu'ils ont en Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance qu'ils ont de sa sagesse, mais d'autres éléments également, tels que la force de l'âme, la force du cœur de la personne, la force de sa personnalité, l'endurance et d'autres choses. Ainsi, le serviteur doit se préparer. Il doit constamment être prêt à faire face aux situations difficiles. Lorsque celles-ci arrivent, l'auteur nous dit, il doit s'imaginer être dans le plus haut degré de la difficulté et s'y préparer. Il doit dresser son âme à la chose la plus difficile. À l'image d'une personne, ce ne sont pas les propos de l'auteur, rahimahullah, à l'image d'une personne qui devrait affronter un ennemi, eh bien cette personne, sans aucun doute, va s'y préparer. Elle va s'entraîner. Elle va mettre tout ce qu'elle a en son pouvoir, comme force, comme entraînement. Elle va se dresser, elle va se préparer psychologiquement afin de faire face à cet ennemi. S'il s'avère que cet ennemi, au final, n'était pas si fort que ça, eh bien, cette personne aura été bien prête et l'aura vaincu. Et si, effectivement, cet ennemi est aussi fort que ça, eh bien, elle sera préparée. Si elle n'arrive pas à le vaincre, elle pourra au moins se défendre et donc diminuer le mal que ce dernier lui fera. Dans les épreuves de la vie, c'est cela que nous dit l'auteur, rahimahullah, la personne doit dresser son âme afin de faire face aux situations les plus extrêmes, les plus difficiles. Une fois qu'elle s'est préparée à faire face aux situations au plus haut degré de difficulté, elle s'investit afin d'alléger au maximum la difficulté qu'elle va rencontrer, le problème, le souci, la peine à laquelle elle va faire face. Ce qui va suivre ne sont plus les propos de l'auteur. Il faut savoir quelque chose, c'est que très souvent, lorsque l'épreuve arrive dans la vie de tous les jours, la personne qui n'est pas préparée va réagir de manière exagérée et elle risque d'outrepasser les limites fixées par Allah dans la peine qui nous est autorisée de ressentir. Elle ne va pas se contenter d'une peine, mais elle va aller jusqu'à s'opposer à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète alayhi salat wa salam nous dit, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Investis-toi dans tout ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne paresse pas. Wa in asabaka shay, et si quelque chose te touche, fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Ne dis pas et ne dis jamais, si seulement j'avais fait telle chose, telle et telle, telle et telle chose se serait produite. Walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Mais dis plutôt, Allah a décrété et il a agi selon sa volonté. Fa inna law taftahu 'amal ash-shaytan. Car la parole si ouvre les voies des actions au diable. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que l'on doit se préparer. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans son livre que nous devons nous préparer. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons très certainement par la peur, la faim, ainsi que une diminution des biens, des âmes et des fruits. Donc Allah Azza wa Jal nous informe de l'épreuve. S'il nous informe de l'épreuve, si nous lisons ces versets, c'est bien pour nous y préparer. Car en réalité, à travers l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare aux degrés les plus hauts. Ainsi, le croyant doit constamment avoir à l'esprit qu'il est possible qu'il soit éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si il est dans cet état d'esprit, quand l'épreuve viendra, il la verra du bon regard et se dira, voici l'occasion dont Allah m'a parlé dans le Coran de me rapprocher de lui en manifestant la servitude qu'est l'endurance, pour laquelle les récompenses sont innombrables chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la personne insouciante n'est pas préparée à l'épreuve. C'est pour cette raison qu'il suffit à l'un d'entre ces gens qui sont insouciants au rappel d'Allah et qui ne sont pas dans une vie qui est attachée à Allah, eh bien lorsqu'ils sont touchés par une difficulté, ils sont complètement bouleversés. C'est la terre entière qui a tremblé et c'est la mort qui est devant eux. Ils oublient que beaucoup de gens souffrent bien plus qu'eux et ne se plaignent pourtant pas. Pourquoi ? Parce que justement, ils étaient préparés. Et c'est de cela que nous parle l'auteur, rahimahullah, le fait de toujours dresser son âme et de se préparer à faire face aux situations les plus difficiles. Ainsi, lorsque les situations difficiles arrivent, la personne est prête à affronter. Si elle peut dissiper le mal par la permission d'Allah, elle le fera. Si elle ne peut pas, alors elle pourra au moins l'amoindrir. Si elle ne peut pas, alors elle est convaincue qu'il y a derrière cela une grande récompense d'Allah et nul doute que l'effet de cette conviction qui habite le cœur de cette personne est efficace dans la dissipation des peines et des soucis qui font souffrir beaucoup de gens à toute époque, surtout celle que nous vivons, où les troubles sont divers et variés. Qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous dit l'auteur, avec cet état d'esprit, le croyant ou la personne va, au lieu de s'occuper par ses soucis, elle va s'occuper par des choses qui lui sont bonnes, par le fait d'attirer en elle des utilités et de repousser, tant bien que possible, le mal. Et si surviennent les causes de la peur, de la maladie, de la pauvreté, et bien sûr, comme vous le savez, nous sommes en plein dedans. Une grande cause de maladie est survenue et nous la vivons. L'auteur nous dit, lorsque surviennent les causes de la peur, des maladies, de la pauvreté ou de la disparition des choses diverses qui nous sont aimées et auxquelles nous sommes attachés, alors le croyant doit faire face à ces choses-là avec la quiétude et avec une âme qui l'aura dressée au préalable. Et il doit se dresser à supporter les douleurs. Et c'est ainsi qu'elles seront diminuées, plus particulièrement si la personne occupe son esprit et son âme à repousser tout ce qu'elle peut repousser, comme épreuve, comme difficulté, autant que possible bien sûr. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dans un récit rapporté par l'imam muslim, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, « Huffati al-jannatu bil-makarih, wa huffati al-naru bil-shahawat. » Le paradis est entouré de choses détestable. L'enfer, lui, est entouré de passions et de désirs. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, en commentant ce récit, nous dit, c'est-à-dire que le paradis est recouvert d'un voile. De même que l'enfer, il est recouvert d'un voile. Quiconque découvre ce voile y entre. Quant au voile du paradis, pour le découvrir, il faut passer par des choses qui sont détestables. Les épreuves, les difficultés, toutes ces choses qui, lorsque la personne se montre endurante, elle se voit élevée en degré et elle gagne l'accès au paradis. Quant au voile qui couvre l'enfer, qui, s'il est dévoilé, la personne y entre, ce sont les désirs et les passions, les péchés, les choses détestées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les choses qui sont détestées pour la personne, mais qui sont le voile qui doit être découvert pour pouvoir accéder au paradis, ce sont des choses relatives à l'adoration d'Allah, à l'endurance dans les douleurs, au fait de se contenir, au fait de faire le bien, de donner des aumônes, et de s'empêcher de commettre les péchés et de suivre ses passions. Voilà comment est entouré le paradis. La parole de l'imam al-Nawawi est bien plus longue, mais je m'arrête ici. Voilà comment est entouré le paradis. Ainsi, la personne se dit, je veux aller au paradis, je suis croyant, je connais Allah, subhanahu wa ta'ala, et je sais pourquoi il m'a créé. Eh bien, je dois savoir, dès maintenant, que ce chemin dans lequel je suis est un chemin semé d'embûches. Il s'y trouve des pièges, des épines qui sont posées par celui qui veut me dévier de la voie d'Allah, al-Shaytan. L'auteur, rahimahullah, nous dit, une telle personne réunira en elle le fait d'avoir dressé son âme pour affronter les difficultés, mais aussi le fait de faire les causes pour lui apporter les utilités. Et cela va la distraire au final des inquiétudes et des soucis. La personne fournira alors des efforts pour renforcer sa résistance face aux difficultés, tout en s'attachant à Allah, tout en s'en remettant à Allah. Car lorsque nous faisons des causes pour obtenir un résultat, que ce soit pour repousser un mal que l'on redoute ou alors obtenir un bien que l'on souhaite, il faut savoir que cela n'est possible que si Allah nous donne son aide. Ainsi, le croyant fait tout ce qui est en sa possibilité, mais il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se fait d'Allah une bonne opinion. Et sans le moindre doute, un tel état d'esprit, nous dit l'auteur, apporte des immenses fruits et apporte à la personne l'épanouissement, la quiétude. Et en plus de cela, cette personne espère la récompense d'Allah, Azza wa Jal. La récompense d'Allah dans ce bas monde, qui se manifeste à travers la délivrance de cette détresse, l'augmentation des biens, la guérison, l'enrichissement, le don d'enfants et d'autres choses encore, mais plus encore le jour dernier, la récompense d'Allah pour avoir enduré et avoir su faire face à cette difficulté comme il se doit. L'auteur nous dit, et cette chose est constatée à travers l'expérience de la vie par bon nombre de gens. Chapitre suivant, parmi les plus grands remèdes, les plus utiles, aidant à la guérison des maladies des cœurs, celles qui sont en relation avec les nerfs, le stress, les dépressions, et j'en passe, et même aussi des remèdes utiles contre les maladies physiques, les maladies du corps, il y a le fait de renforcer le cœur. Le cœur doit être fort. Il ne doit pas se laisser déranger ni perturber par des imaginations qui sont dues à des mauvaises pensées. Lors d'une dernière intervention, nous avions pu parler de l'importance de méditer les signes d'Allah, de méditer les versets, de méditer les noms et les attributs d'Allah, d'occuper son esprit, sa réflexion sur des choses qui sont utiles. Car la première porte que va ouvrir Shaitan pour conduire la personne à la perte, c'est la porte des pensées. tout commence par les pensées, tout commence par le fait de quelque chose qui soit mauvais traverse l'esprit de la personne. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la surat An-Nas, min sharri al-waswas al-khannas. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre al-waswas. Al-waswas, c'est celui qui insuffle le mal, qui fait des suggestions à l'esprit qui sont mauvaises. Mais en même temps, il est décrit comme étant khannas. Al-khannas, c'est celui qui fuit lorsque la personne évoque Allah. Ainsi, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala t'insuffle ses mauvaises pensées, ses mauvaises suggestions dès lors que ton esprit est vide. Il n'est donc pas occupé. Par contre, si tu l'occupes du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de toutes choses qui te seront utiles, à ce moment-là, il ne trouvera aucune place. Et c'est un des plus grands remèdes pour repousser ce que l'on appelle al-wasawis, les insufflations, les mauvaises pensées, le fait de se laisser aller jusqu'à se perdre, qu'Allah nous en préserve. Et combien sont devenus malades, combien ont perdu la raison, combien sont tombés malades physiquement à cause de ces pensées. Puis quand on observe ces personnes, en réalité, il n'y avait pas une véritable cause pour qu'elles arrivent dans cet état. Seulement, elles n'ont pas surveillé leurs pensées et leur esprit. Car lorsque l'homme, nous dit l'auteur, se laisse aller dans ses pensées, dans ses imaginations, et que son cœur se laisse prendre par la peur, écoutez bien, par la peur de tomber malade, ou autre que cela, comme la colère, ainsi que les autres causes douloureuses, quand la personne se dit qu'il va peut-être m'arriver telle chose détestable, je vais peut-être perdre telle chose que j'aime, eh bien sans le moindre doute, cette personne va tomber dans les peines, dans les inquiétudes, dans les soucis, et donc vont découler les maladies du cœur et du corps. La dépression nerveuse, aux effets les plus néfastes, et cela a été constaté chez énormément de gens. Et vous le savez, le stress amène les maladies physiques. Combien de gens étaient bien portants, sains, dès lors qu'ils se sont laissés aller dans les pensées, dans les suggestions, ils ont été dérangés intérieurement et cela s'est manifesté physiquement. Ils sont tombés malades, ils ont pris du poids ou perdu du poids, jusqu'à désespérer de la miséricorde d'Allah, jusqu'à se laisser aller, alors que ce sont des gens qui sont peut-être doués d'intelligence, qui ont peut-être tout pour réussir, mais ils ont laissé Shaitan entrer par cette porte jusqu'à les faire croire qu'ils ne valent rien et qu'ils ne sont capables de rien. Et là, lorsque le Shaitan arrive à entrer par cette porte, il détruit la personne, qu'Allah nous en préserve. Mes frères et mes sœurs, nous avons tout dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tout dans la religion d'Allah. Regardez les paroles d'un savant de l'islam. Nous n'avons pas besoin d'aller vers autre que les sources qui sont le livre d'Allah azza wa jal et la voix de notre prophète alayhi salatu wassalam. S'il nous arrive tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit physiquement, intérieurement, financièrement et j'en passe, on doit se remettre en question car c'est bien à cause d'un éloignement d'Allah. Et proportionnellement à l'éloignement d'Allah, la personne vivra une vie pleine de gêne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Man a'rada 'an dhikri wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et quiconque s'écarte de mon rappel aura à mener une vie pleine de gêne. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il s'écriera alors: Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah Azza wa Jalla lui répondra dans le sens du verset: il en est ainsi car nos signes venaient à toi. Fanasitaha, na'am. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Il en est ainsi car lorsque nos signes venaient à toi, tu les oubliais. Wa kadhalika al-yawma tunsa. De même aujourd'hui tu es oublié. Lorsque l'on dit tu es oublié, vous savez tous qu'Allah n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est voulu par l'oubli, c'est l'abandon. Et d'ailleurs, si vous revenez au dictionnaire, dans la définition du mot de l'oubli, vous verrez que plusieurs définitions sont proposées, parmi lesquelles la perte de la mémoire, mais aussi l'abandon, c'est celui qui est voulu quand on parle d'Allah. Ainsi, la personne oubliait les signes d'Allah, Allah l'oublie, l'abandonnera, la délaissera. Et cette personne aura à mener une vie pleine de gênes. Et qu'est-ce que ça veut dire une vie pleine de gênes? Des problèmes dans sa santé, des problèmes dans son travail, des problèmes dans son couple, des problèmes avec ses enfants, des problèmes avec tout un tas de choses, sans se rendre compte que la réelle cause de tout cela, c'est d'avoir été loin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit, dès lors que la personne rattache son cœur à Allah, place toute sa confiance en lui et ne se laisse pas abattre et ne se laisse pas soumettre à ses pensées qui viendraient le dominer, dès lors que la personne s'en remet à Allah et espère en lui, en sa grâce, ses soucis et ses inquiétudes disparaissent. Et beaucoup de maladies physiques et du cœur, celles qui sont en relation avec les dépressions nerveuses, le stress et j'en passe, disparaîtront avec. Et alors le cœur deviendra fort et la poitrine sera élargie et épanouie. La personne vivra alors une joie qu'il est impossible de décrire. Et je vous invite à méditer. Lorsque des gens qui sont hospitalisés arrivent, par la grâce d'Allah, Azzawajal, à rester de bonne humeur. Vous voyez bien, c'est connu, l'effet positif dans le rétablissement de la personne. C'est pour ça que les médecins disent du malade, souvent, il est fort, il combat, n'est-ce pas? Que dire alors de celui qui combat avec la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala? Combien ont été malades? On leur a dit, je suis désolé, mais je dois vous avouer qu'il n'y a plus d'espoir. Vous êtes arrivé à terme. Préparez-vous, faites votre testament et j'en passe. Mais eux ont répondu, Inni atawakkalu ala Allah. Je m'en remets à Allah. Combien ont levé leurs mains au dernier tiers de la nuit? Combien se sont dirigés vers le Tout-Puissant, le Créateur, et lui ont demandé, Oh Allah, guéris-moi. Tu es le Créateur, tu es parfaitement sage. Je t'implore de m'accorder la guérison. Et se sont vus guéris. Les médecins ont dit, eh bien écoutez monsieur, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vous avoue, que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de choses. C'est normal, ça dépasse la science mondaine. Tout est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, l'auteur a dit, combien d'hôpitaux se sont vus remplis de gens touchés par les maladies à cause de leurs imaginations, de leurs pensées. Et combien ces maladies ont atteint les cœurs de beaucoup de gens qui étaient forts à la base. Subhanallah. Que dire alors de ceux qui étaient faibles? Ces maladies les ont fait perdre la raison. Et celui qui se voit accorder le salut est celui qui a été préservé par Allah. Et celui qui a eu l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de combattre son âme pour obtenir les causes permettant au cœur de se renforcer et d'éradiquer les inquiétudes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah le suffit. C'est-à-dire qu'Allah le suffira contre toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala le suffira contre toute chose, subhanallah. Il le suffira dans sa vie d'ici-bas, lorsque il sera dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera, lorsqu'il sera dans le besoin de subsistance, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera. Et en plus de cela, s'il se voit dans le besoin d'être exaucé, Allah lui donne. Et là, je vous invite à méditer un hadith qui est extrêmement important en ce sens. Il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres. D'après An-Nu'aym ibn Hammar Al-Ghatafani, qu'Allah l'agrée, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « قال الله عز وجل Allah exalté soit-il a dit « يَبْنَ آدَمْ Ô fils d'Adam لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْضَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَةِ » Écoutez bien attentivement. Ô fils d'Adam, ne sois pas paresseux, de telle sorte ne sois pas, pardon, incapable d'accomplir 4 raka'at, 4 unités de prière. Au début de la journée, je te suffirai pour la fin de la journée. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier 4 raka'at au début de la journée. Et si l'on agit ainsi, il nous protégera pour toute la journée, jusqu'à la fin de la journée. Les savants ont diverses paroles concernant ces 4 raka'at, de quoi il s'agit. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, et c'est rapporté par son élève, l'imam Ibn Qayyim, dans son livre Zadul Ma'ad. Il dit, هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. Ces 4 raka'at, d'après moi, sont la prière de l'aube et les 2 unités qui se font juste avant. Subhanallah. La personne fait 4 unités de raka'at, de prière, pardon, et elle se voit protégée par Allah. Subhanahu wa ta'ala, et Allah lui suffira. Et quand Allah te suffit, tu n'as besoin de plus personne d'autre que lui. L'auteur, rahimallah, conclut ce chapitre en disant « Celui qui s'en remet à Allah, qui place en lui sa confiance, son cœur deviendra fort et les imaginations, les pensées ne lui feront aucun effet. Et tout ce qui se passe, non plus, ne le dérangera pas, car ce serviteur sait que cela fait partie de la faiblesse de la personnalité que de se laisser aller dans les pensées. Et de la peur qui n'est pas une peur basée sur quelque chose de réel, de fondé. Et ce serviteur sait avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant d'être suffisant à celui qui s'en remet à lui. Ainsi, le serviteur s'en remet à Allah, il espère en la récompense d'Allah et toutes ses inquiétudes disparaissent. Les difficultés deviennent des facilités. Les tristesses et les peines deviennent des joies. La peur devient la sécurité. Nous demandons à Allah de nous accorder al-afiyah, le salut, la préservation contre tout mot, et de nous donner la force du cœur et la fermeté dans la confiance totale en Allah, subhanahu wa ta'ala, cette confiance qui fait qu'Allah préserve la personne et repousse d'elle tout mot, tous les maux et toutes difficultés. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.